Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire une solitude qui rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.
Chers auditeurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans Encore Heureux. Laurie Lee est un écrivain et un poète anglais né en 1914 à Stroud, dans le Gloucestershire. Très tôt, Laurie Lee a le goût des voyages. Marcheur infatigable, il quitte à 19 ans son petit village pour se rendre à Londres, avec pour seul bagage son violon. Puis il embarque sur le premier bateau venu jusqu'au port espagnol de Vigo. Laurie découvre l'Espagne et la guerre civile. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il travaille comme script sur des documentaires, mais c'est son autobiographie en 3 volumes qui le rend célèbre. Rosie ou le goût du cidre, Un beau matin d'été et Instant de guerre. Ces 3 romans sont aujourd'hui des classiques de la littérature anglaise, vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde. Laurie Lee était un homme de contradiction. Hédoniste, grand buveur, chaleureux, d'un charme fou, mais aussi égoïste, opportuniste. Il adorait être le centre de l'attention. Les femmes étaient attirées par lui comme des papillons autour d'une flamme. Mais la seule qu'il voulait vraiment, la belle mondaine, Lord Agarman Wishart, elle, lui brisa le cœur. Elle le quitte pour un autre homme et le pousse à séduire sa nièce, Cathy Polge. Laurie Lee épousera Cathy. Elle a 18 ans, lui en a 36. Le certificat de mariage à peine sec, il s'éprend d'une autre jeune fille, 18 ans elle aussi, fille d'un autre couple riche qu'il avait accueilli à bras ouverts. Laurie Lee est un redoutable séducteur. Il a raconté comment, parfois, il rentrait chez lui après une nuit de débauche pour trouver une fille parfaitement inconnue dans son lit. Laurie Lee aime les femmes, follement, déraisonnablement. En revanche, il déteste les chiens. Valérie Groves, sa biographe, raconte qu'au cours d'une interview réalisée dans un pub, l'écrivain, agacé par le chien d'un client, exprime ouvertement son aversion pour l'animal. « Les amoureux des chiens sont des gens incapables d'aimer les autres êtres humains », déclare-t-il. Voici une autre anecdote rapportée par l'écrivain lui-même. Un jour, un étranger vint au village. Il rentra dans le pub de Slade, le Woolpack, et demanda à un client accoudé au bar s'il voulait bien lui indiquer où était enterré l'écrivain Laurie Lee. Laurie Lee, qui était justement en train de boire une pinte, s'avance alors vers le touriste et dit « Cher monsieur, c'est un Laurie Lee bien vivant qui se tient là devant vous, mais revenez d'ici 1 heure et vous le trouverez raide mort, mis en bière, ici même. »
Encore heureux, encore heureux. Portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B.
L'élite littéraire a toujours snobé Laurie Lee, en raison sans doute de son succès commercial. Toute œuvre populaire auprès du grand public étant considérée comme suspecte. Ou peut-être était-ce sa soif de vivre, son tempérament de feu, ses bouffonneries, ses relations avec les femmes qui dérangeaient, contrastant trop fortement avec l'image que l'on se fait de l'artiste, forcément tourmenté et souffreteux. Certains critiques sont allés jusqu'à dire que Lee avait échoué en tant qu'artiste, car après Rosie ou le goût du cidre, il n'avait plus rien écrit d'équivalent. Le jugement est sévère, car Laurie Lee a publié plusieurs livres de poésie très respectés. Le journal de son retour en Espagne est un classique de la littérature de voyage, et la deuxième partie de son autobiographie est devenue elle aussi un classique, au même titre que Rosie ou le goût du cidre. Rosie ou le goût du cidre. Le livre est publié en France chez Phébus. Laurie Lee l'a écrit en 1959. Il y décrit son enfance, 40 ans après, dans la vallée des Cotswolds, au sud-ouest de l'Angleterre. Une enfance au milieu d'une tribu de 8 gamins élevés par une mère seule, généreuse et fantasque. Nous sommes juste après la Première Guerre mondiale. Les limites du petit village de Slade sont pour l'écrivain les limites du monde. Il n'y a pas encore d'électricité au village, voiture non plus, seulement des maisons, des champs, des bois. Avec force et délicatesse, subtilité et humour, Laurie Lee restitue mille et un détails, mille et une sensations, capte avec beaucoup de finesse et de drôlerie la découverte du monde, l'émerveillement de l'enfance. Le roman est bucolique, nostalgique, mais le ton n'est jamais mièvre, jamais fade, jamais ennuyeux. On y parle de guerre, de peur, de folie, de mort, avec un amour de l'Angleterre qui résonne à chaque page. Le jeune Laurie et sa famille mordent la vie à pleines dents, malgré la pauvreté et la rudesse de leurs conditions. L'écrivain consacre de très belles pages à sa mère. Quand mon père fut parti, elle nous emmena au village et attendit. Elle attendit 30 ans. Je ne crois pas qu'elle ait jamais su pourquoi il l'avait quittée, bien que les raisons en soient évidentes. Elle était trop honnête, trop naturelle pour cet homme frileux, trop éloigné de sa maniaquerie. Elle n'était, après tout, qu'une fille de la campagne, désordonnée, hystérique, amoureuse, espiègle et bavarde comme une pie. Elle faisait un nid avec des haillons et des joyaux. Elle était heureuse au soleil, poussait des cris d'alarme, furetait avec une insatiable curiosité, oubliait de manger ou mangeait toute la journée et chantait quand le soleil couchant était rouge. Elle respirait, comme respirent les haies, aimant le monde, sans faire de projet. Elle éprouvait un vif respect pour les natures et aurait été incapable de passer sa vie à tenir une maison. Ce que mon père souhaitait, c'était quelque chose de totalement différent, quelque chose qu'elle ne pouvait pas lui donner, l'ordre protecteur d'une banlieue douteuse. Extravagante et romantique, notre mère était un bouffon qu'on ne prenait jamais vraiment au sérieux. Elle possédait cependant une délicatesse intérieure, du goût, une sensibilité et une vivacité d'esprit qui, malgré les coups de gourdin de la malchance, demeurèrent intactes et exempts de toute amertume, jusqu'à la fin. D'où tirait-elle ces qualités? Dieu seul le sait. Et comment elle réussit à les préserver? Mais elle aimait ce monde. Elle le voyait avec des espoirs sans cesse renouvelés et qui jamais ne s'embrumaient. Mère était une artiste, une originale, quelqu'un de lumineux et qui ne s'en douta pas un seul instant. La première image que j'ai d'elle est celle d'une femme belle, forte, généreuse, mais dont la gravité native est toujours visible sous la nervosité du bavardage. En quelques années, elle s'usa et se courba, son opulence et sa santé ayant été rapidement rongées par les privations et les soucis. C'est dans cet état que je me souviens le mieux d'elle, car c'est dans cet état qu'elle est restée le plus longtemps. Je la vois encore rôder dans la cuisine, tremper une biscotte dans une tasse de thé, les cheveux en désordre et semant partout des épingles, le corps courbé dans des vêtements informes, les yeux scrutant quelques révélations de la lumière, poussant des « ah !» des « oh !» ou des « là !» ou bien récitant du Tennyson et me demandant d'y comprendre quelque chose. Avec son amour des fanfreluches, son habitude des lits défaits et ses litières de coupures de presse, avec ses tabous, ses superstitions et sa pruderie, sa remarquable dignité, sa pitié envers les malheureux, son respect des gens bien, avec sa connaissance détaillée des arbres généalogiques de toutes les familles royales d'Europe, elle était une masse informe d'insolubles contradictions, une servante née dans un bas de soie. Cependant, en dépit de tout cela, elle éclaira nos têtes de pioche d'imperceptibles étincelles de beauté. Tout ce que je vois maintenant est entouré d'un halo d'or, un changement de saison, un oiseau caché comme une gemme dans un buisson, les yeux des orchidées, un plan d'eau à la tombée du soir, un chardon, une image, un poème. C'est à elle que je dois mon plaisir. Parfois, elle me poussait à bout. Mais je sais aujourd'hui que c'est à travers l'esprit insouciant de ma mère, que j'ai abordé le monde. Encore heureux, portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B. Laurie Lee fait de chaque instant du quotidien un événement délicieusement romanesque, et de chaque membre de son entourage un héros ou une héroïne. Il dresse de fabuleux portraits de ses voisins, oncles, institutrices, camarades de classe. Le monde du jeune Laurie est peuplé de personnages loufoques ou inquiétants. Charlie Trognon de Chou, Albert le Diable, Percy de Penswick ou Willy le Poiscaille. Voici comment il dépeint ses deux vieilles voisines, deux grand-mères acariâtres, vivant dans le même cottage que lui, un cottage en forme de T, où chacune a son domaine bien délimité. Les deux vieilles se débrouillaient pour ne jamais se rencontrer. Elles empruntaient, pour grimper la pente, des sentiers différents. Elles ne faisaient pas les courses le même jour. Elles avaient leur propre lieu de promenade et choisissaient des horaires décalés pour se rendre à l'église. Mais chacune savait toujours ce que l'autre était en train de faire et le disait en poussant de hauts cris. Grand-mère Vallon avait le nez sur ses marmites. Elle distillait ses liqueurs, rampait parmi les choux ou venait toquer à nos fenêtres pour cancaner, se plaindre ou chanter. Grand-mère Trill continuait de se lever avant le jour, peignait ses cheveux pâles comme de la cire, sortait s'asseoir dans le bois, mâchait, prisait, sucetait du porridge et feuilletait son almanach. Mais toutes deux étaient sur le qui-vive, l'oreille et la narine en éveil. Quand grand-mère Vallon était à ses alambics, grand-mère Trill avait des convulsions. Quand grand-mère Trill prisait, grand-mère Vallon s'étranglait et chacune le faisait savoir à l'autre. Elles passaient leur journée à écouter, à renifler et à fureter, rôdant dans les pièces, crachant et grillonnant, n'ayant de cesse qu'elles ne se fussent relancées. C'était une vie tranquille, douce amère, parfaite au fil des années. Et les deux grand-mères me semblaient éternelles. Indestructible commère d'une mythologie vieille comme l'univers. Elles avaient toujours été quelque part, dans les lambris, et je ne pouvais imaginer le monde sans elles.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore Heureux.
Rosie, la fameuse Rosie, n'apparaît qu'à la toute fin du livre. Le jour où Laurie Lee goûta à ses baisers, il ne fut plus jamais le même. « Rosie, » dis-je à genoux et tremblant. Elle rampa vers moi dans un froissement d'herbe, vive et avec un aplomb superbe. Sa main dans la mienne était comme une petite flamme humide que je ne pouvais ni tenir ni lâcher. Alors, avec l'impitoyable force d'un roseau, Rosie me fit basculer de mon branlant perchoir et me renversa dans son grand sourire vert jusqu'aux profondeurs humides de l'herbe. Ce qui arriva après, je me rappelle très peu de choses, et ce peu, vaguement. Des tambours battaient dans ma tête. Invisible présence salée, Rosie était là, mais trop près pour être vue ou mesurée. Et il semblait que la charrette sous laquelle nous étions étendus s'était mise à dériver comme une péniche, loin dans la vallée, nous emportant et nous berçant, sans que personne pût nous voir, au gré d'immobiles courants. Puis elle ôta ses bottines et les remplit de fleurs. Elle fit de même avec mes godasses. Sa voix d'amadou crépitait comme des flammes dans mes oreilles. D'autres feux furent allumés. Je bus encore du cidre. Rosie me raconta des histoires à dormir debout. Elle m'aimait, dit-elle, plus que Walt, Ken ou Bonnie, plus que Harris, et même plus que le curé. De mon côté, j'admis d'une voix rauque qu'elle était plus belle encore que Betty Gleed. Nous restâmes longtemps assis, bouches rapprochées, respirant le même air brûlant, puis nous échangeâmes un baiser, un seul, aussi timide que deux feuilles sèches se rencontrant dans l'air. Les années passant, Une foule de femmes ont prétendu être la Rosie du célèbre roman. Mais la véritable Rosie s'est révélée être la cousine éloignée de l'écrivain, une certaine Rosaline Buckland. La chanson qui suit est dédicacée non pas à Rosie, mais au grand Laurie Lee.
Remember when summer's long and the girls used to dance to an old schoolyard song? Remember the glance and the hint of romance? Life was so easily won. Kitty just cries, Lucy tells lies, but Rosie just smiles at the sun. Remember when harvest was done and the larks tried to burn their wings on the sun? You lay by my side with your face to the sky. First love is never undone. Kitty just cries, Lucy tells lies, but Rosie just smiles at the sun.
Laurie Lee décrit magnifiquement son village et ses habitants. Il dépeint avec la même poésie la nature sauvage des Cotswolds. L'hiver, pas plus que l'été, n'était typique dans notre vallée. Ce n'en était même pas le contraire. C'était simplement autre chose.
Fait mortel dehors, dit le laitier. Les freux sont après les moutons. Les cygnes gèlent sur le lac et les mésanges tombent raides mortes en plein vol.
L'hiver, c'était un monde de verre, étincelant et immobile. Les brumes avaient gelé tout autour des arbres, les transformant en pain de sucre. Tout était raide, bouclé, scellé. Et quand nous respirions, l'air avait une odeur d'aiguille, nous piquait les narines et nous faisait éternuer. Sous le soleil faible et bas, les champs lointains étaient recroquevillés comme des huîtres. Le ciel s'était éclairci et des ruisseaux d'étoiles déferlaient dans la vallée jusqu'au pays de Galles. L'été, étourdi de senteurs et d'abeilles, le jardin partout brûlait de chaudes fleurs blanches, chacune d'une si aveuglante incandescence qu'elle faisait mal aux yeux quand on les regardait. Les villageois prenaient l'été pour une sorte de punition. Les femmes, qui ne s'y habituèrent jamais, déversaient des seaux d'eau dans les chemins, enlevaient la poussière en marmonnant,
tandis que couvertures et matelas pendaient comme des langues aux fenêtres, et que les chiens, babines pantelantes, s'abritaient sous les citernes à eau de pluie. L'Aurélie s'éteint au printemps 1997, chez lui à Slade, son village d'enfance. De sa fenêtre, il voit la vallée qu'il aimait tant. Son fils, Jesse, écrit. Le jour de sa mort, tout était doré. Une lumière extraordinaire emplissait la maison. Deux arcs-en-ciel sont apparus dans la vallée. C'était si étonnant que beaucoup de gens du village ont pris des photos. Un phénomène étrange dans un ciel noir. Un moment transcendant. Laurie, lui, était si tranquille. Il est parti, sereinement. Nous sommes allés dans le jardin après son dernier souffle et nous avons ramassé des bouquets de roses blanches, ses fleurs préférées. Nous avons éparpillé les pétales sur lui. Une sensation extraordinaire montait lentement dans nos pieds. Nous n'avions qu'une chose à faire. Danser. Chers amis auditeurs, merci. À bientôt sur Radio B.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. C'est-à-dire qu'une solitude qui en rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words have been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.